VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est midi à Bamako, 13h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. L'Union africaine a décidé d'envoyer au Burundi des observateurs des droits de l'homme et des experts militaires. L'organisation panafricaine a également exhorté le pouvoir burundais à reprendre le dialogue sur le calendrier des élections par la voix de son commissaire à la paix et à la sécurité de l'UA, Smaël Cherghi, Jean-Roger Bion.
Monsieur Cherghi, qui s'exprimait à l'issue du 25e sommet de l'Organisation panafricaine à Johannesburg, a précisé que ses experts devront notamment vérifier le processus de désarmement des milices et autres groupes armés. Un contingent d'au moins 50 personnes est attendu. Celles-ci seront issues de la région et d'autres parties du continent en collaboration avec le gouvernement et les autres parties concernées. Le commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine a fait savoir aussi que la date des élections doit être déterminée dans le consensus. Le Burundi est sous haute tension depuis un mois et demi. La candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat après 10 ans de pouvoir a déclenché le 26 avril un mouvement de contestation émaillé de violences qui ont fait une quarantaine de morts et poussé plus de 100 000 Burundais à fuir vers les pays voisins, terrorisés notamment par des miliciens fidèles au président.
Déception à la Cour pénale internationale, à l'ONU et à Washington après le retour à Khartoum du président soudanais Omar al-Bashir. Ce dernier a quitté le sommet de l'Union africaine à Johannesburg en dépit de l'injonction d'un juge sud-africain le sommant de rester en Afrique du Sud, Lionel Gaïma.
Le chef de l'État soudanais devait demeurer sur place jusqu'à ce que la justice détermine s'il devrait être arrêté ou pas en rapport avec son inculpation par la Cour pénale internationale de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans le conflit du Darfour en 2003. Au lieu de cela, il a repris son vol pour Khartoum où il s'était crié à sa descente d'avion « Dieu est le plus grand ». Ce n'est pas la première fois que le président soudanais défie l'ACPI en se rendant à l'étranger. Les États-Unis ont déploré le fait que l'Afrique du Sud l'ait laissé regagner son pays. « Nous sommes déçus qu'aucune action n'ait été prise », a déclaré le porte-parole du département d'État. Même son de cloche du côté du procureur adjoint de la CPI. Je pense que je peux m'exprimer au nom de la procureure en disant que nous sommes déçus. L'Afrique du Sud est un État parti qui a toujours fermement soutenu la Cour pénale internationale et de notre point de vue, son obligation était claire. Son obligation était d'arrêter le président El-Bashir.
Au Tchad, des dizaines de militaires et de policiers patrouillent à N'Djamena aujourd'hui, au lendemain des 2 attentats suicides qui ont fait 28 morts, dont 4 terroristes et 120 blessés. Le groupe islamiste nigérian Boko Haram est le suspect numéro 1. Voici quelques réactions recueillies dans la capitale tchadienne par André Kodmajingar de FM Liberté, notre station partenaire à N'Djamena.
Je suis abasourdi et indigné en même temps que des actes comme ça se produisent encore au XXIe siècle. C'est bien dommage que nos systèmes de sécurité laissent entrevoir des brèches pour que les terroristes puissent en profiter. C'est un acte à condamner et ça interpelle également le gouvernement à renforcer les dispositifs de sécurité parce qu'un marché public ou encore un bus de transport commun pourrait se comprendre aisément, mais dire que ça se passe dans des centres de formation des policiers et même à la direction générale de la police, c'est bien dommage. On connaît leur mode d'opération, ces terroristes. On dit souvent aussi que la vengeance est un plat qui se mange froid. Donc, ils ont planifié cela. Mais ce n'est pas ça qui va empêcher aux Tchadiens de soutenir les autres frères qui sont dans la même situation. Parce que nous avons toujours été combatifs et on le restera.
Vraiment, c'est un acte déplorable. Je souhaite toutes mes condoléances aux familles affligées. Et ce que je demanderai au gouvernement, doubler d'efforts pour sécuriser la population. Ce n'est pas une surprise. Tout est déjà préparé. Aujourd'hui, c'est le tour du commissariat. Et demain, peut-être que ça sera dans des écoles ou bien dans les marchés. Et ça va être catastrophe.
J'adresse comme ça mes condoléances à toutes les familles endeuillées. Je me sens vraiment en danger actuellement là où je suis. Il est grand temps que la police et les autres forces renforcent la sécurité parce qu'à chaque fois, on assiste à certaines fouilles en pleine circulation, mais cela n'est pas suffisant. Il va falloir commander des appareils performants pour pouvoir sécuriser la ville. Sinon, on sera vraiment frappé encore à nouveau par d'autres attentats. Ça, c'est la négligence également de nos forces de l'ordre. Je ne peux pas imaginer qu'à l'entrée du commissariat ou bien au sein de l'école de police, un tel acte se produise. Il n'y a pas de mesure pour pouvoir contrôler ceux qui entrent au marché, par exemple. Il va falloir vraiment étudier un autre système de sécurité pour protéger la population.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Bénin, investiture officielle du président de la 7e législature hier. C'est la troisième fois que maître Adrien Mbeji, leader du PRD, le parti du renouveau démocratique, accède à la présidence de l'Assemblée nationale, ce qui fait de lui la seconde personnalité du pays. Des précisions avec notre correspondant à Cotonou, Peggy Ludovic Dagba.
Maître Adrien Mbeji, le président nouvellement élu, après avoir adressé ses remerciements à tous, s'est étendu sur le nombre sans cesse croissant des partis politiques au Bénin.
Je veux proclamer ici l'impérieuse nécessité d'une réforme approfondie de notre système partisan. Aboutir à un nombre très réduit de partis politiques au lieu des 200 actuellement dénombrés. Les construire autour d'un projet de société. Instaurer en leur sein des règles efficaces d'alternance, assurer un financement public conséquent de leurs activités assorti d'un contrôle non moins public, interdire la transhumance, le tout pour permettre à nos partis d'être de vrais partis qui jouent efficacement leur rôle dans l'animation de la vie politique et dans la conquête du pouvoir d'État.
Après avoir invité ses collègues députés à adopter des comportements responsables qui aideront à changer l'image pas très enviable du Parlement auprès des Béninois, Maître Adrien Mbeji s'est emporté contre la violence et autres actes barbares qui menacent la paix dans le monde.
Notre législature débute dans un contexte où partout dans le monde, la paix et la sécurité sont menacées. Nous assistons impuissants à la montée des fondamentalismes religieux. L'intégrisme gagne du terrain avec pour corollaire la violence, les attentats ciblés, les enlèvements et de lourdes pertes de vies humaines. Cette situation nous interpelle, nous autres députés. Il est de notre devoir de nous engager pour la paix, non pas seulement à l'intérieur de nos frontières, mais au-delà.
Présent à la cérémonie, le président du Parlement gabonais a félicité Maître Adrien Mbeji pour son élection et lui souhaité plein succès. Mais il a aussi tenu à présenter ses excuses au peuple béninois pour les actes de vandalisme contre l'ambassade du Bénin au Gabon, voici quelques semaines. La nouvelle équipe législative a donc pris son envol pour les 4 prochaines années. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, VOA Afrique.
Visite du président français en Algérie, François Hollande a salué hier le combat commun mené par Paris et Alger contre la menace djihadiste. Le leader français et le président algérien ont notamment évoqué la situation au Mali et en Libye et le double attentat au Tchad, Eddy Sango.
Le président Hollande s'est rendu en Algérie à l'invitation de son homologue Abdelaziz Bouteflika. Selon l'AFP, le chef de l'État français a souligné à son arrivée à Alger les combats communs menés par l'Algérie et la France contre cet ennemi terrible implacable auquel nous avons porté des coups et encore récemment ces dernières heures. Une référence au raid américain en Libye où aurait été tué Mokhtar Belmokhtar, l'un des chefs djihadistes du Sahel. À propos du Tchad, le président Hollande a déclaré lors d'une conférence de presse « Il n'y a pas de doute que Boko Haram est responsable et devra rendre compte de cette nouvelle horreur humaine ».
À noter concernant Mokhtar Belmokhtar que le groupe djihadiste libyen Ansar al-Sharia a démenti aujourd'hui qu'il a été tué lors de la frappe américaine au sud de Benghazi la semaine dernière. Selon Ansar al-Sharia, 7 personnes ont péri lors de l'attaque, mais pas Mokhtar Belmokhtar, dont la mort a déjà été annoncée de façon prématurée à plusieurs reprises. Par contre, le chef de la filiale d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique, Nasir al-Wahishi, a été tué par une frappe de drone américain la semaine dernière. C'est ce qu'annonce aujourd'hui Al-Qaïda. L'attaque a eu lieu vendredi dernier dans le port de Mukalla au Yémen. Al-Wahishi était l'adjoint du leader d'Al-Qaïda, Ayman al-Zarawi. Il dirigeait depuis 2009 Al-Qaïda dans la péninsule arabique, considérée par les États-Unis comme la filiale la plus dangereuse du groupe terroriste. Deuxième jour des pourparlers de paix inter-yéménite à Genève. La délégation des rebelles yéménites est finalement arrivée sur place aujourd'hui. Hier, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, avait appelé à une trêve humanitaire dans le conflit au Yémen. Mais le ministre des Affaires étrangères du Yémen, Riyad Yassin Abdullah, rejette l'idée d'un cessez-le-feu global. Le chef de la diplomatie yéménite a toutefois indiqué que son gouvernement pourrait envisager une trêve limitée si les rebelles houthis acceptent de se retirer des villes et de libérer plus de 6000 prisonniers.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.